Let's not be just walkers.
Ne marchons pas seulement.
Let's be runners.
Soyons aussi des coureurs.
Running after him.
Qui courent après lui, avec tout, de tout notre cœur, de toute notre énergie. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour commencer?
Non.
Bonjour.
We have to do the formalities first.
Nous devons commencer par les formalités, mes amis.
Vous allez bien?
C'est toutes ces bonnes choses, n'est-ce pas? Et ensuite, je vous pose la question.
The word mariné, right? Have you been mariné?
Alors, est-ce que vous avez mariné?
Some of you look a little marinade.
Certains ont l'air marinés,
a little dry and
un petit peu sec, mais avec des petites rides ou quelque chose.
Mariné.
Non, c'est pas ça, non.
Well, I hope that is our heart.
J'espère que c'est ce qu'il y a sur notre cœur, parce que c'est vraiment le secret. Amen.
Amen. Well, we've got a little more today.
Alors, nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui. Voyons ce que Dieu a pour nous. Père, je demande pour nous, que tu le fasses. Tu dois parler à nos cœurs. Je ne peux rien faire. Personne, aucun d'entre nous ne peut faire quoi que ce soit en dehors de toi. Nous te demandons, Esprit Saint. Nous savons que tu es là. Oint vraiment chaque cœur et chaque personne présente ici aujourd'hui pour que nous entendions exactement ce que nous avons besoin d'entendre. Et que par ta grâce, nous allions le recevoir. Et pas simplement le poursuivre, mais vraiment courir après toi. Merci pour ta fidélité aujourd'hui. Et chacun dit Amen. Alors, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Priez avec moi. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous avons étudié, regardé le début d'une prière plutôt inconventionnelle, avec trois mots, vraiment tout dès le départ, qui nous saisissent le cœur. Notre Père céleste. Il n'est pas question de moi, il est question de nous. Il est question de la communauté. Il est question de ce qu'on se donne les uns aux autres, de l'intimité en Christ. C'est ce que nous avons vu dans Galates 5 la semaine dernière. Nous sommes libres. Combien d'entre vous sont reconnaissants d'être libres ce matin? Merci Jésus. Mais nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Combien d'entre vous n'aiment pas entendre que je ne suis pas libre de faire ce que je veux? Non, vous êtes libre pour faire quelque chose de bien plus grand, de bien plus élevé. Quelque chose de bien plus, enfin, à plus long terme. Vous êtes libre pour vous servir les uns les autres dans l'amour. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un d'autre? Je vais te servir.
Vous n'êtes même pas aussi excité que la semaine dernière.
Vous n'avez pas l'air aussi enthousiaste que la semaine dernière. Vous l'avez essayé et ça n'a pas fonctionné. Oui, vous avez essayé, mais c'est difficile parfois de servir. Les maris et les femmes ne se regardent pas quand ils disent « Ah oui, ah oui ». Oui, c'est difficile. Non, ce n'est pas simple. Mais ça fait quelque chose de vraiment merveilleux à l'intérieur de nous, quand nous commençons à obéir, à suivre, par amour pour Jésus, parce qu'il sait ce qu'il fonctionne. Nous servons. Donc je ne vais pas vous demander de dire à la personne à côté « Tu dois me servir » parce que vous avez eu beaucoup trop d'enthousiasme la semaine dernière à dire ça. Mais c'est vrai aussi. Mais disons-le avec humilité, n'est-ce pas ? Je me souviens d'une fois quand mon frère nous a rendu visite. C'était quand nous étions jeunes mariés, il y a 3 ou 4 ans. Mon frère est parti après être resté chez nous. Et je lui ai dit, oh, merci d'être venu. Et il m'a dit, je suis juste content de vous avoir donné l'opportunité d'être béni. Oui, c'est vrai, mais je ne l'aimais plus vraiment après ça. Non, il m'a aidé à être béni, et c'est vrai. Il m'a donné d'être béni. Vous me regardez d'un air un peu perplexe, mais réfléchissez-y, oui.
Voilà. Amazing. What do each of these chairs have written on the back of them?
Qu'y a-t-il d'écrit à l'arrière de chacune de ces chaises ? Vous ne le voyez pas ? Nous l'avons utilisé comme exemple la semaine dernière. Donc chaque dimanche maintenant, surtout à la fin du service, vous regardez à l'arrière de votre chaise et vous voyez notre. Ce ne sont pas les chaises d'Arsène et il en prend soin. Ce sont nous, c'est ma chaise, dont je dois prendre soin pour l'ensemble, pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez le dire plus fort ? Merci. Notre. Un mot puissant, dès le début de cette prière. Nous voyons ensuite le deuxième mot, et j'espère qu'il deviendra d'autant plus précieux pour vous. Notre. Vous parlez araméen. Dites-le Abba, notre Abba. Quel mot choquant pour commencer cette prière. C'était un mot intime. On ne dit pas ça quand on prie à Dieu. Et Jésus dit, voilà, Jésus il renverse tout en leur permettant de voir ce dont il est véritablement question. Il est question de communauté avec notre Abba. Et c'est ce que nous devons faire tous ensemble. Le troisième mot, auquel nous allons regarder dans un instant, est un mot très intéressant qui souvent, sur lequel nous glissons généralement. Notre Abba céleste, dans les cieux. On est juste là, oui d'accord, il est là-bas. Il est intéressant de s'arrêter un moment et de mariner ici quelques instants. Ça va vous surprendre. Ça va vous choquer aussi. Cette expression céleste, alors que nous commençons à prier, alors que nous sommes dans cette attitude de prière, alors que nous prions littéralement ces mots, ou que nous y pensons simplement, ils nous attirent vers une réalité plus grande et mettent les choses dans une perspective beaucoup plus large alors que nous venons devant notre Abba. Quelqu'un a dit, deux personnes ont dit, cette chose entre nous et Jésus n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique. Il n'est pas question de vous et de Jésus, enfin, il n'est pas seulement question de vous et de Jésus, ou de moi et de Jésus. Il y a quelque chose de bien plus grand qui se passe ici. Et dès le début de cette prière, il veut que nous le voyions. Il y a une magnifique tension ici. Jésus était toujours dans cette tension, n'est-ce pas ? Contre le système, parce que la vérité était bien en dessous de ce qui était là. Et elle était bien plus grande que ce qui était là. Et la plupart du temps, elle contredisait ce qui était là. Donc il n'était pas vraiment populaire. Le Jésus que vous servez, quand il était sur terre, était un échec. Selon les standards du monde, il était un échec. La majorité le rejetait, ne le recevait pas et ne le suivait pas. Donc quand vous êtes un peu bouleversé par la réaction des personnes face à vous, détendez-vous, réjouissez-vous, vous êtes en bonne compagnie. Et je ne le dis pas de manière capricieuse ou de manière banale. Je vous le dis, nous pouvons voir même aux États-Unis, en Europe ou partout dans le monde, les choses ne vont pas en se simplifiant. Connaître Jésus et le servir ne va pas en se simplifiant. Et si vous lisez toutes les Écritures, et pas seulement Jean 3,16, si nous lisons toutes les Écritures, nous voyons que ça ne va pas s'arranger, ça va aller de pire en pire avant que les choses s'améliorent. Est-ce que je peux avoir un petit amen à ça? Nous donnons à Dieu le sacrifice de louange parce que nous savons que parfois ça va nous coûter, mais nous le continuons de le louer parce qu'il est le seul d'être digne de louange. Il est le seul à être digne de louange. Voilà, c'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout. C'est pourquoi nous disons notre. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, tout seul. Dites-le à la personne assise à côté de vous, j'ai besoin de toi. C'était un peu mieux. Maintenant, nous venons à cette expression céleste. Vers quoi Jésus nous attire-t-il ici ? Une lettre. Littéralement, ça ne dit pas notre Père céleste. Il est écrit notre Père dans les cieux. Dans les cieux. Et ici, le pluriel fait toute la différence. En anglais, en général, le mot « ciel » fait référence à l'univers, aux étoiles, aux galaxies, à toutes ces galaxies qui se côtoient, qui passent les unes près des autres. Comme les plaques tectoniques sur notre Terre. Donc, moi, je ne peux pas concevoir. Je n'arrive pas à me représenter ce que ça veut dire. C'est immense. Nous pensons à ces choses, les galaxies, les étoiles, des millions et des millions d'années-lumière de chez nous. Donc, ce ne sont pas juste des années. Il y a des planètes, des supernovas, des comètes, des trous noirs. Cet univers immense et incompréhensible. On ne peut pas concevoir ce que c'est bien au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer. Donc, quand vous voyez les images qui reviennent du télescope Hubble, c'est vraiment impressionnant. Que Jésus nous demande de prier à notre Père céleste qui a créé toutes ces choses. Je ne suis pas en train d'essayer de vous piéger, mais est-ce que c'est bien lui? Oui, bien sûr. Voilà qui il est. Bien sûr que nous devons le prier, mais il y a plus. Dites-le, il y a plus. Au premier siècle, les Juifs croyaient que les cieux étaient en différentes couches. Il y a l'air que nous respirons, les oiseaux qui volent, ça c'est le premier ciel. Voilà ce qu'il croyait. Et donc le ciel de la nuit, donc au-dessus de ce premier ciel, il y avait le deuxième ciel, donc avec la nuit, les étoiles. Et donc vous pouvez imaginer ce qu'était le troisième. La salle du trône, cette partie spirituelle, nous ne savons pas vraiment où elle est, mais pour eux c'était le troisième ciel. Donc quand ils entendaient les cieux, voilà ce qu'il se représentait. Les miracles de l'apôtre Paul, où il parle, dans 2 Corinthiens 12, il parle d'être pris dans le troisième ciel. Donc Jésus a appris à ses disciples à prier notre Père céleste, qui est aux cieux. Donc il souhaitait que nous soyons saisis par deux caractéristiques de notre Abba. Donc à la fois sa proximité. Il est ici, dans le premier ciel. Aussi proche que notre propre souffle. Mais ensuite, sa grandeur, sa magnificence, sa grandeur, il n'est pas seulement confiné à notre petit monde, il est le Dieu souverain de tout, de toute la création. Bien au-delà de ce que nous pouvons commencer à voir et à imaginer, il est ce Dieu. Petit, le petit et l'immense. Les cieux. Donc pour l'audience juive qui entend Jésus dire « Notre Père qui est aux cieux », ça appelle à leur esprit ces deux pensées, ces deux concepts, la proximité et la distance. Il ne dit pas « Notre Père dans le troisième ciel ». Ils l'auraient compris si Jésus l'avait prié comme ça, ça aurait eu du sens pour eux. Mais cela n'aurait soutenu que le concept de sa grandeur et de son immensité. Plutôt que ça, Jésus dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et ce qui vient à leur esprit, il attire son audience et il nous attire aussi dans l'image complète du cosmos qui est à la fois loin et proche. À chaque fois que nous pensons que nous découvrons quelque chose de nouveau, rappelons-nous que non, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Dans le psaume 139, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Commencez-vous à sentir cette tension? Alors que nous entrons dans la prière, il nous aide à nous souvenir que notre Père est bien, bien, bien plus grand que nous. Là, il aurait fallu dire Amen, n'est-ce pas? Il est bien au-delà de nous. Donc, en lisant les Écritures, nous pouvons voir que notre Père n'est pas limité. Il n'est pas limité dans sa capacité, il n'est pas limité dans son autorité, il n'est pas limité dans sa disponibilité. Donc, ce ne sont pas les choses pour lesquelles nous voulons nous concentrer aujourd'hui, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée de qui est Dieu. Voilà qui il est. Et aussi bon que nos pères terrestres puissent être ou ne pas être, il est notre Père céleste. Bien, bien, bien au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici, tout ce que nous pouvons désirer ici.
with Abba. We also have a father. He's not just unlimited, he's invisible.
Nous avons un père qui n'est pas seulement illimité, il est invisible. Il est indépendant, on ne peut pas lui dire quoi faire. On peut lui dire, mais ça ne marchera pas. Nous ne pouvons pas le comprendre, on ne peut pas commencer à le comprendre. On ne peut pas commencer à comprendre qui il est véritablement. Donc, quelqu'un a dit, si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui présentez-lui vos plans. Notre Père est une personne, il est autre, il est amour. Donc ça, ce n'est même pas l'entièreté de sa personnalité. Il est invisible, indépendant, on ne peut pas le comprendre, c'est une personne, il est autre, il est amour. Donc, quand nous commençons, quand je commence cette prière et que je dis, Père, notre Père, qui es aux cieux, Nous nous rappelons à quel point il est bien au-delà de nous. Il est bien plus grand que nous. Alors que nous entrons dans la prière, il veut aussi que nous voyions que notre Père est vraiment, vraiment, vraiment là, proche, présent. Respirez. Prenez encore une fois une respiration bien profonde. Donc là, vous êtes de nouveau en vie. Très bien. Prenez-en encore un. Maintenant, arrêtez de respirer pour les prochaines 20 minutes. Vous venez de respirer, vous venez d'ingérer une partie du premier ciel. Il est aussi proche de nous que l'air que nous respirons, que nous avons dans nos poumons. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors nous déversons notre louange. Vous connaissez ce chant. C'est vrai. Ce n'est pas simplement une belle métaphore, une belle image, c'est vrai. Il est si proche, si intime. Il est dans le premier ciel. Les Écritures le disent, en lui, nous vivons et nous bougeons, et nous sommes. Tout ce que nous faisons, chaque geste que nous faisons, vient de lui. C'est une capacité qu'il nous donne de bouger, de nous mouvoir. Donc nous commençons à prier et nous nous rappelons que nous avons un Père qui est bien, bien plus grand que nous, mais qui est aussi très, très, très proche. Magnifique tension, magnifique paradoxe.
Pastors and any of us that study, and all of us should be that. You always want to ask the question, so what?
Nous voulons toujours poser la question, alors quoi? Pourquoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que ça a de l'importance? En quoi est-ce que cela s'applique à moi? Que se passe-t-il ici? Laissez-moi vous poser une question. De nombreuses personnes ne le louent que dans sa grandeur, de ce grand Dieu là-bas, au paradis. Donc certaines personnes ont vraiment beaucoup de révérence pour ça. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre nous étaient comme ça à un moment donné. Mais la question est, l'adorons-nous dans sa proximité, dans l'intimité que nous avons avec lui? Beaucoup d'entre nous ne vont pas jusque-là. Si nous ne prêtons pas attention, la présence de Dieu peut devenir une déduction, une théologie. Voilà, c'est biblique, c'est théorique, c'est là. Ça peut être simplement une connaissance, une connaissance vraie, mais ça en reste là pour beaucoup d'entre nous. Si on ne prête pas attention, ça reste une théorie, une connaissance. Mais ça ne devient pas une expérience personnelle.
John 1, one of my favorite verses.
Jean 1, un de mes versets favoris.
To all who received him, to those who believed in his name, Il
a donné le droit de devenir enfant de Dieu.
You just have to realize it. Well, wait a minute. To all who received him, you got to take a step here.
À tous ceux qui l'ont reçu, donc il faut prendre un, il faut faire un pas de foi. Il faut avoir une connexion profonde avec lui. Donc il faut faire un pas qui montre notre croyance. Et donc ensuite, si vous avez cru en son nom, il fait de vous, il vous fait devenir un enfant de Dieu. Donc vous n'étiez rien, vous devenez enfant de Dieu. Vous allez du non au oui, ça n'a pas toujours été là. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais regardez bien, recevoir à ceux qui l'ont reçu, qui l'ont connu, qui l'ont cru en lui. C'est une connexion, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas seulement un concept.
A.W. Tozer, some of you, how many of you have ever read any of Tozer?
Vous connaissez A. Tozer? Qui l'a lu?
How many of you would like to just put your hand up and make it look like you've read Tozer?
Combien d'entre vous voudraient vraiment bien lever le bras et faire comme si vous l'aviez lu, bien sûr?
Tozer, well, he actually was a part of the Christian and Missionary Alliance back in the 40s and 50s.
Tozer faisait partie de l'Alliance missionnaire chrétienne. Dans les années
30-40,
peut-être que certains d'entre vous ont lu son classique « À la poursuite de Dieu ». C'est vraiment un très très bon livre. Mais une des idées clés de ce livre est celle-ci, la présence de Dieu. Est-ce que c'est peut-être important? Est-ce que c'est un peu important? Est-ce que c'est important de temps en temps? Est-ce qu'on peut en parler? Non, c'est le centre du christianisme. Il est question en partie de lui là-haut dans les cieux, mais de sa présence ici. Il est venu pour nous sauver nous-mêmes, ici sur cette terre.
Il a
pris l'initiative, c'est lui qui a agi. Sa présence était là et maintenant, après avoir payé pour nos péchés, pour que nous puissions être à nouveau en relation avec lui, qu'il n'y ait plus rien qui entrave notre relation à lui. Ça, c'est plutôt proactif comme démarche. Il est question de sa présence maintenant, ici. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit l'élément clé, l'élément essentiel et central de la foi chrétienne. Ensuite, Tozer continue et dit quelque chose de crucial aussi, et c'est là où je voudrais nous amener ce matin. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent sa présence, donc on le connaît, comme on le disait tout à l'heure, on le sait théoriquement. Oui. Oui, c'est super, il est partout. Il y a des gens qui le disent comme ça. Mais ensuite, ils croient vraiment que nous sommes dans la présence de Dieu. Oui, d'un point de vue théologique, je le crois, et c'est bien. Mais rien n'est dit au sujet de faire l'expérience concrète et tangible de sa présence. N'oublions pas, mes amis, nous devons nous souvenir de ça, et j'en ai besoin moi aussi aujourd'hui. Il est si facile d'être préoccupé et de ne pas cultiver et d'encourager une véritable rencontre instant après instant, chaque jour avec Dieu. Nous le rencontrons dans nos pensées, et c'est bien. Oh, aujourd'hui, j'ai fait ma méditation. Oui, c'est très bien. Et les paroles de Dieu ont été plantées dans votre cœur, et j'espère que vous commencez à voir les fruits que cela porte et que ça vous encourage. Mais combien d'entre nous s'assoient simplement en silence dans sa présence et se réjouissent de sa présence et en laissant sa présence nous impacter, parce que nous sommes assis là dans l'attente en lui disant, quoi que, ta volonté soit faite. Il nous donne sa parole pour que nous puissions rentrer dans sa présence. La parole est au sujet de la rencontre avec lui, de sa présence. Ce n'est pas la parole d'un côté et de l'autre côté, tiens, je vais passer du temps avec Jésus. Non. La parole est là pour nous attirer dans sa présence. Est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, je dois peut-être recommencer la semaine prochaine. C'est essentiel. Je crois que c'est partiellement la raison pour laquelle nous avions une rencontre de leaders hier pour échanger, discuter de voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses et de nous reprendre les uns les autres pour les choses qu'on ne fait pas bien. Non, pas du tout. Non, quand il y a un problème, on en parle, et c'est ce que j'aime à Trinity. Mais l'un des commentaires était, dans cette réflexion de qui nous sommes, était... Ah oui, si d'un point de vue humain, les choses ne devraient pas avoir lieu, on ne devrait pas être là. Mais quand des personnes laissent vraiment Jésus et Dieu travailler dans leur vie et dans leur cœur, simplement et directement, et qu'ils marchent avec Jésus, les choses se font, les choses arrivent. Dieu le fait, tout simplement. Nous l'avons vu quand Cathy et moi nous voyageons à travers le monde, ça arrive partout et ça arrive à des endroits où ça ne devrait pas arriver, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui sont en train de devenir, enfin qui sont fous, qui sont suffisamment fous pour croire que Dieu arrive et que si on l'écoute, les choses se font. Si on le suit, il change des vies. Les gens changent de manière radicale, les vies changent de manière radicale parce que c'est à présent la nouvelle création. Ils vont dans une nouvelle direction et ça porte du fruit et ça fait des choses magnifiques. Vous ne devriez pas être là aujourd'hui. Mais revenez la semaine prochaine quand même, s'il vous plaît. Donc ça, c'est juste un témoignage de qui est Dieu. Si nous ne faisons pas attention, nous agissons comme s'il n'était même pas dans le premier ciel. Mais il est notre Père dans les cieux. Alors, quel est notre défi aujourd'hui? Deux choses. Pour moi, ce qui est sur mon cœur, c'est la première chose, c'est apprendre à le connaître. Il est une priorité. Il est la priorité. Apprenez à le connaître. Ne laissez rien se mettre entre vous et lui. Prenez du temps pour être avec lui. Je n'ai pas le temps. Frère Andrew a découvert qu'il était plus proche de Dieu pendant qu'il faisait la vaisselle dans la cuisine du monastère. Donc ses temps les plus proches, les plus intimes avec Jésus étaient dans ces moments-là, dans la cuisine, pendant qu'il faisait la vaisselle. Donc ma femme me dira plus tard, ah, tu devrais faire la vaisselle plus souvent. Quelqu'un dans notre groupe nous a dit la semaine dernière, tu sais, on est étudiants, on a plein de choses à faire, mais tu sais quoi? Je prends le tram tous les jours pendant 40-50 minutes. Je peux m'asseoir ici et je peux être avec Jésus. Je peux mariner dans le tram. Je peux être assis dans sa vérité, je peux être dans sa parole, des choses que je lis et sur lesquelles je médite. Je peux le faire dans le tram. Jésus a dit, va dans ta chambre et ferme la porte, mais c'est une autre type de pièce, mais il y a une porte, alors allez-y. Si c'est tout ce que vous avez pour l'instant, allez-y. Utilisez ce temps. Certains d'entre vous courent, n'est-ce pas? Il y a des gens fous qui vont courir. Bon, ça c'est... Pas de problème, je vous pardonne. Parlez à Jésus pendant que vous courez. Soyez simplement calme dans sa présence alors que vous êtes en train de tuer votre corps. Parlez-lui. Seigneur, aide mon corps, s'il te plaît. Je suis en train d'abuser de ce que tu m'as donné, mais aide-moi. C'est tellement bon d'être avec toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est notre premier appel, mes amis ? Au fil des ans, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant quand je leur posais la question « Quel est notre premier appel ?» Alors vous verrez que plus vous vieillissez, plus vous comprenez ce qui est vraiment important. Vous verrez que votre esprit ne peut gérer que quelque chose simple à la fois, donc vous verrez que les choses deviennent de plus en plus simples. Quelle est la première réponse que je reçois en général ? L'évangélisation, la mission, faire de bonnes choses pour les gens ? Oui, tout est bien. Mais que dit Jésus ? Sors et va évangéliser les gens. C'est ça qu'il dit. Va faire des trucs bien pour les gens. Oui, il a dit ces choses, mais la première chose, avant toute autre chose, qu'est-ce qu'il a dit ? Viens à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids du fardeau, prenez mon fardeau qui est léger. Parce que je suis doué et humble de cœur dans Matthieu 11. Écoutez-moi, nous ne sommes pas appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à lui. Est-ce que vous êtes choqués là ?
Out of an amazing relationship with him when we're overwhelmed with his love and
si nous avons une relation avec lui et nous serons tellement submergés par son amour et par sa grâce et par cette relation intime avec le Dieu Tout-Puissant, si nous sommes parfaitement sûrs dans son amour, oui, nous aurons envie de sortir et d'aller aider les gens et nous aurons envie de faire tout ce que nous pouvons pour partager Jésus avec les autres. Mais qu'est-ce qui vient en premier ? Nous sommes appelés à lui. D'abord. Et pour nombre d'entre nous, la manière dont nous vivons chaque jour, nous ne le savons pas. Je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de vous encourager, de vous exhorter. Il n'est pas surprenant, et c'est pourquoi Paul dit « Continuez de rester rempli de l'Esprit-Saint ». C'est cette relation personnelle et intime avec lui, c'est ça. C'est de là, c'est la source, c'est de là que tout découle, de tout vient. Il est le centre, il est le focus, parce qu'il est notre Père dans les cieux. Le deuxième point, quand je demande aux gens de mon âge ou un peu plus âgé que moi et que je lis des choses sur des personnes qui méditent sur leur vie et que je leur demande si vous pouviez refaire votre vie, quelle est la seule chose que vous changeriez ? Enfin, s'il y avait une chose que vous pourriez changer, quelle serait-elle ? Et avec presque tous, la réponse était qu'en pensez-vous ? Vous diriez quoi ? Je marinerais plus. Oui. Mais une chose, une réponse commune à toutes les réponses était « je prendrais plus de risques ». Combien d'entre vous aiment prendre des risques ? Et vous êtes fous. Mais le reste de vous,
non, vous n'êtes pas. Et nous remercions Dieu pour les risques-takers.
Non, vous n'êtes pas fou parce que, et nous vous remercions parce que ça nous pousse, le reste d'entre nous, à prendre plus de risques. Il veut faire tellement de choses. Il est le Dieu qui fait plus que ce que nous pouvons penser ou même imaginer dans Éphésiens. Nous devons risquer plus. Quand il nous incite, on a l'impression que c'est souvent juste notre tête qui dit, mais non, souvent c'est l'esprit qui dit, allez, vas-y, fais-le, prends un risque, je serai avec toi. Et nous nous détournons de ce qu'il nous demande. Ouais, non, c'était juste moi. Non ? Si vous et moi, si nous le faisions, nous serions surpris de ce qui se passerait. Pouvez-vous imaginer petit David, le berger, pas très grand, il est là pour apporter le déjeuner à ses frères et il y a là l'armée qui est complètement effrayée devant Goliath. Avec l'autre armée qui est en train de maudire leur Dieu, qui est en train de se moquer de leur Dieu. Tout le monde est en train de trembler, tout le monde a peur. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Et donc ce petit berger arrive là, regarde la situation, il évalue la situation, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il entend l'histoire et il dit « Êtes-vous fou ?» Mais non, c'est un Philistin. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez peur? C'est bon, je m'en occupe. Et donc il dit, vas-y, tu peux prendre mon armure. Non, c'est trop lourd, j'en ai pas besoin. Je vais y aller dans le nom de mon Dieu. Comment est-ce qu'il a eu autant de courage? Comment est-ce qu'il a trouvé le courage de faire ça? C'est parce que il a suivi son appel. Il a été appelé par le grand berger et il a répondu à cet appel. Il a passé du temps avec son bon berger. Il a passé du temps dans les champs à surveiller son troupeau. Et donc il s'est même battu avec un ours et un lion qui essayaient de prendre son troupeau. Il a dit « Non, je sers mon Dieu et je dois prendre soin de ce troupeau. » Non. Il me donne la force et alors là, il a tué un lion et un ours avec ses mains nues. Oui, en anglais, c'était un jeu de mots. Il a tué l'ours à main nue. Pourquoi ça n'arrive pas plus souvent? David sort dans le champ, dans les prés. Imaginez, si j'étais face à un géant, armé, avec une épée que je pourrais à peine soulever. Et là, je commence à trop penser déjà, avec ma tête et pas assez avec mon cœur. David, il y est allé, il a dit non, mon Dieu est avec moi. Je me suis déjà occupé d'un lion et d'un ours, je peux m'occuper d'un Philistin. Vous savez ce qu'il a dit? David avait la bonne attitude. D'autres disent, il est trop grand. Il y en a qui auraient dit, il est trop grand pour que tu puisses le tuer. Et David lui aurait répondu, non, il est trop grand pour que je le rate. Vous voyez la différence d'attitude? Et là, David, avec un seul tir, imaginez combien de fois il a pu s'entraîner avant. Il pouvait même le faire en dormant. Probablement qu'il l'a même fait en dormant. Naturel. Et il avait une confiance immense en son Dieu. Alors qu'il n'y va pas juste pour le tuer, il lui dit. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu te moques du Dieu créateur. Tu te moques du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais te tuer et couper ta tête et l'amener à mon peuple. Et ça, c'est plutôt ambitieux. Il y a de l'assurance, de la confiance, du zèle, du courage. Il est dit qu'il avait quoi, trois ou quatre autres pierres avec lui? Il avait cinq pierres en tout, je crois. Pourquoi est-ce qu'il en avait cinq? Parce que Goliath avait quatre frères. Nous savons que Goliath avait quatre frères. Alors pourquoi est-ce qu'il avait cinq pierres? Parce qu'il était prêt. Si ses frères viennent aussi, je suis prêt, mon Dieu est avec moi. Waouh! Combien d'entre vous ont un géant dans leur vie en ce moment? Toutes les mains devraient se lever. Soyez honnêtes, on a tous des géants, on fait tous face à des géants dans nos vies en ce moment. Mes amis, il est temps de tuer certains géants.
Who is our Abba?
Qui est notre Abba?
He's our Father in the
Il est notre
heavens.
Père dans les cieux. À quel point est-il grand? Regardez sa puissance, sa force.
That's why I love James 4:7.
C'est pourquoi j'aime Jacques 4:7.
Look what it says.
Regardez ce qu'il dit. Soumettez-vous. Si vous voulez faire face à un ennemi, assurez-vous d'abord d'être en règle avec Dieu. C'est pourquoi il est important d'être intime avec lui, comme David l'était. Et ensuite, que faites-vous? Comment est-ce que c'est écrit? Trouvez une grande armée et regardez ce que vous pouvez faire, parce qu'il n'y a que comme ça que vous réussirez. Non. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Donc ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, parce qu'on avance dans l'autorité de notre Père qui est dans les cieux. Donc nous devons résister. Résistez-leur tout simplement. Parlez simplement, clairement et partez dans le nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Il n'y a pas de problème ici parce que je suis un enfant de Dieu. Hop, va-t'en, j'ai autre chose à faire. Et vous partez? Bien souvent, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et vous n'aimez pas la fin de ce verset? Vous faites un petit peu d'exercice et après, qu'est-ce qui se passe? Et alors quoi, vous reculez parce qu'il y a beaucoup de... Votre ennemi a beaucoup de force et il vous pousse et... Non, non, quelle est l'image ici? Vous le résistez et... Il fuit loin de vous, comme un petit rat qui a peur, effrayé. Il s'en va, il s'enfuit. C'est pas juste qu'il se retire, il s'en... Voilà. Il fuit. Qui est notre Père dans les cieux que nous prions? Celui qui tue des géants avec des frondes. Ça demande pas grand chose. Ça demande juste d'avoir un cœur pour lui. Du temps avec lui. Mes amis, si nous le faisons, ou quand nous le faisons, donc quand nous prenons simplement ces trois premiers mots de cette prière, alors que nous commençons à prier, mes amis, vous et moi, si nous prenions vraiment conscience de toutes ces choses et que nous étions vraiment ancrés dans ces choses, nous prierions différemment. Et nous ferions l'expérience de choses vraiment différentes. Père, je demande que tu saisisses nos cœurs d'une manière toute nouvelle avec ces trois mots. Et je voudrais vous demander de vous lever un moment pendant que les musiciens viennent. Mettez-vous debout, tenez-vous dans la prière. Et si votre désir est de tuer quelques géants ce matin, dans sa présence ici ce matin, faites-le correctement pour qu'il n'y ait rien entre vous et lui et que sa puissance puisse couler à travers vous en vous et à travers vous, pour qu'il puisse tuer vos géants et que vous puissiez continuer et que vous puissiez accomplir les choses que Dieu a pour vous. Je vous encourage à ouvrir vos mains, les mains vers le ciel, en manière de dire à Dieu, je reçois tout ce que tu as pour moi. Ou faites-le d'une manière qui vous parle et dites-lui, Dieu, je veux plus, je veux tout ce que tu veux que je sois, je veux être tout ce que tu veux que je sois et je veux que tu m'utilises pour toutes les choses pour lesquelles tu veux m'utiliser. Et je vais passer à travers vous et je vais prier une prière de bénédiction. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous ouvre toujours plus les yeux pour que vous puissiez le voir dans le troisième ciel et que vous puissiez tomber face contre terre devant lui. Que le Seigneur vous ouvre les yeux vers qu'il ouvre vos yeux sur le ciel, les étoiles et toutes ces choses pour que vous voyiez toujours mieux sa proximité, son intimité. Que le Seigneur vous donne un nouveau sens de sa présence. Et même ici déjà, sa présence en vous, que vous puissiez vous lever avec un nouveau courage, prendre des risques et que vous puissiez tuer des géants cette semaine, dans son nom puissant. Amen.